Nous ouvrons la parole de Dieu dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 3. Apocalypse, chapitre 3. À l'ange de l'église de Sardes, écrit. Voici ce que dit celui qui a les sept esprits de Dieu et les sept étoiles. Je connais tes œuvres. Je sais que tu es réputé vivant, mais tu es mort. Sois vigilant. Affermis le reste qui est sur le point de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres accomplies devant mon Dieu. Rappelle-toi ce que tu as reçu et entendu. Garde-le et repens-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai te surprendre. Cependant, tu en as quelques-uns à Sardes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes. Le vainqueur sera habillé de vêtements blancs. Je n'effacerai jamais son nom du livre de la vie. Je le reconnaîtrai devant mon Père et devant ses anges. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Alors nous voici arrivés à notre dernière église dans la série des sept églises de l'Apocalypse. Alors, ça n'est pas la dernière dans le livre de l'Apocalypse, puisqu'il y en a encore deux autres, mais les deux suivantes, Philadelphie et Laodicée, nous les avons déjà visitées, l'un ou l'autre des dimanches qui précèdent. C'est la dernière église, et ce n'est sûrement pas la meilleure. C'est peut-être bien la pire. Qu'y a-t-il de pire que d'être mort? Laodicée est tiède. Éphèse est tiède aussi. Tu n'aimes plus comme au début. Mais Sardes est tout ce qu'il y a de plus froid. Elle est morte. Alors cette mort n'est quand même pas irrémédiable, parce qu'alors il ne servirait à rien de lui adresser une lettre. Et comme on le verra, il reste quand même un peu de vie dans cette église morte. Avant de nous intéresser de plus près à cette église morte, ce constat inquiétant, nous invite à jeter un coup d'œil à l'ensemble des sept églises, et peut-être ce n'est pas inutile au moment où nous arrivons à la fin de cette série des églises. Le moins qu'on puisse dire lorsqu'on considère l'ensemble de ces églises, c'est que le tableau n'est pas brillant. Sur les sept églises, il y en a deux seulement qui ne reçoivent aucun reproche. Smyrne et Philadelphie. Et les cinq autres reçoivent des reproches qui sont graves. Pergame et Thyatire, les fausses doctrines y circulent librement. Éphèse n'aime plus comme au début. Laodicée est tiède. Et Sardes est morte. La vision donnée à Jean, présentée au chapitre précédent, le premier chapitre de l'Apocalypse, elle nous présentait une vision du Christ glorifié, longue robe, ceinture d'or, des yeux flamboyants comme du feu, des pieds comme du bronze étincelant, une voix comme le bruit des grandes eaux, un visage rayonnant comme le soleil dans toute sa force. Le Christ glorifié, il apparaît au milieu de sept chandeliers d'or. Ces sept chandeliers d'or qui sont les sept églises. et elles sont énumérées dans cette vision. Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie et Laodicée. Quel contraste entre cette vision glorieuse et la réalité de l'Église. Et la réalité de l'Église, il faut aussi la voir en regard avec la vision qui va suivre les chapitres 4 et 5, la vision du trône de Dieu, un trône d'où sortent des éclairs, un trône entouré de l'adoration des quatre êtres vivants impressionnants, des 24 anciens qui proclament « Tu es digne, notre Seigneur, notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance. » Et au milieu du trône réapparaît le Christ, et cette fois-ci comme un agneau immolé, le seul digne d'ouvrir le livre de la destinée du monde, le livre qui est scellé de 7 sceaux. Le destin de notre monde est entre les mains du Christ. Et c'est cette Église, le moyen par lequel il se fait connaître au monde, ces sept églises ne sont pas si brillantes. Et il ne s'agit pas tellement des communautés chrétiennes de la province d'Asie au premier siècle, à la fin du premier siècle, parce qu'avec ce chiffre 7 et avec les visions qui l'entourent avant et après, on doit bien comprendre que derrière cette réalité locale, c'est bien une évocation de l'Église dans sa totalité, l'Église de tous les temps, de tous les lieux. L'Église, ben voilà à quoi elle ressemble. Alors certes, il n'y a pas que du négatif, hein, il y a des actes, il y a de la persévérance, il y a de l'amour, il y a de la fidélité, il y a de la clairvoyance face aux erreurs, et puis surtout un témoignage, jusqu'à la prison, jusqu'à la mort. C'est pas rien. Mais globalement, quand même, il y a plus de reproches que de compliments. Et d'ailleurs, les seules églises, les deux églises, qui ne reçoivent pas de reproches, elles ne paraissent pas si brillantes que ça. De l'une, Jésus dit qu'elle est pauvre. Elle est riche quand même, mais enfin, elle est pauvre. Et de l'autre, Jésus dit qu'elle a peu de puissance. Un Christ glorieux et une Église pas si glorieuse. Alors, quelle conclusion en tirer pour nous-mêmes, pour notre Église ? D'abord, il y a une conclusion qu'il ne faut pas en tirer. Ce serait le fatalisme et puis la négligence. Bon, l'Église n'est pas parfaite, elle ne le sera jamais, il n'y a pas de quoi nous faire trop de soucis, c'est comme ça, on n'y peut rien. Ce n'est pas du tout comme ça que Jésus voit les choses. Les reproches que Jésus adresse sont toujours suivis de directives pour remédier à ces reproches. Il y a toujours quelque chose à faire. Et Jésus renforce ces appels à réagir, il les renforce par des promesses et par des menaces. Donc ne prenons pas parti des défauts de l'Église et de nos propres défauts. Pas de ça. Et c'est précisément parce que Jésus aime l'Église, nous aime, qu'il ne baisse pas les bras, qu'il ne baisse jamais les bras. Même devant une Église qui est tiède, même devant une Église qui est moribonde. Moi, dit-il à l'Église de Laodicée, moi je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Pas de fatalisme, pas de laisser aller. Alors, quelle conclusion retenir ? Lorsque nous considérons ce tableau des sept églises, eh bien, nous devons tirer la conclusion que nous risquons fort de nous trouver dans une église à laquelle Jésus a des reproches à faire. Même à Melun, 5 sur 7, c'est quand même beaucoup. Ça, c'est en dessous de la moyenne. Et les deux restantes, auxquelles Jésus n'adresse pas de reproches, peut-être que nous ne serions pas si contents d'en faire partie, parce qu'on risque bien d'y être pauvre et persécuté comme à Smyrne, ou d'avoir peu de puissance comme à Philadelphie. Ce n'est pas très enthousiasmant. Les apparences peuvent être trompeuses. Laodicée se croit riche et elle est pauvre. Smyrne est pauvre, mais elle est riche. Sardes a la réputation d'être vivante, mais elle est morte. Ce qui compte, en fait, c'est la façon dont Jésus voit les choses, dont il voit son Église. Nous risquons tort de considérer, nous risquons tous de considérer l'Église en fonction de ce qu'elle nous apporte. Une bonne église, c'est une église où je trouve l'atmosphère spirituelle qui me convient, où je reçois l'enseignement qui me plaît, où je peux exercer les dons que je crois avoir reçus. Ça, c'est une bonne église. Et puis quand les choses ne se passent pas comme ça, alors nous faisons grise mine. Nous sommes déçus, nous nous plaignons, ou peut-être nous allons voir ailleurs. Est-ce que j'exagère ? Bon, je dis les choses d'autant plus librement que j'ai bien l'impression que nous sommes plutôt contents de notre Église. C'est bien, mais ça ne suffit pas. Et ça peut être trompeur. Donc, posons-nous deux questions qui peuvent nous éclairer et nous lancer sur la bonne voie. Première question, qu'est-ce que Jésus pense de l'Église ? Alors, les prédications précédentes nous ont déjà donné l'occasion de prêter attention à ce point de vue, je ne vais pas y revenir, et puis d'ailleurs, d'une façon générale, toutes les prédications devraient remplir cet objectif. Deuxième question, qu'est-ce que je peux faire pour l'Église ? Pour qu'elle corresponde davantage à ce que demande le Christ glorifié. Qu'est-ce que je peux faire pour l'Église ? Non pas pour m'y épanouir, mais pour servir. Dans toutes les lettres de l'Apocalypse, même lorsque ça va très mal, Jésus attend de l'Église, ou du moins de membres de l'Église, qu'ils agissent, qu'ils prennent à cœur la situation de la communauté. Et à Sardes, par exemple, affermit le reste qui est prêt de mourir. Alors, si je remarque dans l'Église quelque chose qui ne va pas, quelque chose qui probablement attriste Jésus-Christ, qu'est-ce que je vais faire ? Prier ? Demander à Dieu de m'aider à comprendre ? À comprendre ce qu'il veut, et peut-être aussi ce qu'il veut de moi, et puis rechercher vraiment le bien de la communauté. Alors, il est grand temps maintenant de nous intéresser de plus près à Sardes. Alors, avec Sardes, la question qui inquiète, et la question qui tue, si je peux dire, c'est qu'est-ce que c'est que d'être mort ? Nous sommes peut-être tentés de nous dire « Oh ben ça ne nous concerne quand même pas ici. Nous sommes quand même une église vivante, il y a des choses qui bougent, il y a des baptêmes, il y a des flambeaux, il y a même un tout nouveau café Minin. » Ce qui est inquiétant, c'est que Jésus dit « Tu passes pour être vivant, mais tu es mort. » Donc on peut être mort sans s'en rendre compte, soi-même, et sans même que les autres s'en aperçoivent. Sardes ne passe pas pour une église morte. Au contraire, quand on parle de Sardes, on dit « oui, Sardes, c'est une église vivante ». Dans notre langage religieux, et en particulier chez nous évangéliques, quand on parle d'église morte ou d'église vivante, c'est surtout à l'atmosphère plus ou moins chaleureuse que l'on pense. À l'expression de la foi, plus ou moins vivante, plus ou moins communicative, dans les chants, les prières, la façon de conduire la louange, la façon de prêcher. Et là, je ne vais pas pouvoir y arriver parce qu'il faudrait que j'ai un micro-cravate et que je puisse bouger un petit peu. Et là, je suis coincé derrière le pupitre. Alors, cette façon de mesurer la vitalité de l'Église, je crois qu'elle n'est pas à écarter. Nous ne sommes pas de purs esprits. Nous sommes des êtres de chair et ce que nous ressentons, ça doit s'exprimer d'une façon ou d'une autre. Et quand je vais dans une église où l'on voit bien et je ressens que les gens aiment prier, aiment exprimer à Dieu leur reconnaissance, leur attente, ça m'interroge. Cependant, ce baromètre de la santé de l'Église, ce baromètre, il comporte des risques d'imprécision et peut-être même aussi des risques d'erreur. Et il nous faut y être attentif, d'autant plus que c'est un baromètre que nous utilisons de manière spontanée, sans y réfléchir, ça va de soi. Première cause d'imprécision, nous sommes tous plus ou moins différents les uns des autres. Alors certains sont plus expansifs, d'autres sont plus réservés. Et quand on y réfléchit, c'est quand même bien utile à la société. Quand les uns parlent volontiers, il faut bien qu'il y en ait d'autres qui se taisent volontiers. Parce que sinon, on ne s'entendrait plus. Et puis si tout le monde se taisait, eh bien ce serait d'un ennui mortel. Cette différence entre les individus, on l'aperçoit aussi entre les cultures. Nous avons tous appris à nous conduire d'une certaine façon, à exprimer, à retenir nos émotions. J'ai été très frappé et ému lorsqu'un étudiant cambodgien, il y a quelques années, m'a raconté, avec un large sourire, que toute sa famille avait été massacrée pendant le génocide, ses parents, ses frères et sœurs. Choquant, incompréhensible. Sauf si on apprend que dans la culture où il a baigné depuis son enfance et qui a façonné sa façon de s'exprimer, dans cette culture, il est très insultant de s'adresser à quelqu'un sans sourire. Il faut sourire. Ça ne se fait pas de ne pas sourire. Et le fait qu'il dise ça en souriant ne l'empêchait pas d'être profondément ému, remué par ce qu'il disait. Et tout autant que quelqu'un qui n'aurait pas pu retenir ses larmes, qui aurait poussé de grands cris. Et en étant suffisamment attentif, je pense qu'on pouvait percevoir cette profonde émotion qu'il avait derrière son sourire. Donc voilà une première imprécision, une cause d'imprécision du baromètre. Et puis la deuxième cause, c'est que c'est une mesure de l'apparence. Et ça nous ramène au reproche que Jésus adressait à l'église de Sardes. Adresse à l'église de Sardes. Tu as la réputation d'être vivant, tu as l'apparence d'être vivant, mais tu es mort. Donc si le reproche adressé à l'église de Sardes ne concerne pas l'atmosphère, l'expression plus ou moins vivante et colorée de la piété, qu'est-ce qui est en cause à Sardes ? Jésus ne le dit pas de manière aussi explicite que pour d'autres églises. Par exemple, lorsqu'il nomme les Nicolaïtes, quand on parle de Nicolaïtes, on sait qu'il y a un certain Nicolas derrière. Bon, nous ne savons pas, nous, qui était ce Nicolas, mais les gens le savaient bien. C'est très direct comme reproche. Jésus est ici moins explicite, mais il donne quand même suffisamment d'indices pour qu'on comprenne ce qu'il veut dire. Et c'est en écoutant les exhortations, les appels qu'il adresse à l'Église, qu'on peut percevoir ce que c'est que cette mort qui menace et qui atteint déjà l'Église de Sardes. Que dit Jésus ? Sois vigilant, affermis le reste qui est prêt de mourir. Jésus ne dit pas « réveille-toi », il dit « veille ». Et ce n'est pas vraiment la même chose. Et ça montre que ce qui manque à l'église de Sardes, ce n'est pas la vitalité, programme vitalité, ce n'est pas la vitalité, mais c'est la vigilance. Et c'est confirmé par la suite. Affermi, souviens-toi, garde. Ce n'est pas le mouvement qu'il lui faut. Réveille-toi, bouge-toi, avance. Non. Ce qu'il lui faut, c'est de revenir à ce qu'elle sait déjà, à ce qu'elle a reçu et entendu. Ce qu'il lui faut, c'est la stabilité. Ah, on me dirait, ça, c'est un discours de vieux. Ah, peut-être bien que c'est un discours de vieux, mais c'est Jésus qui le tient. Et puis, pourquoi est-ce que les discours de vieux seraient-ils sans valeur ? Parce que ce sont des discours de vieux. Ben, c'est le mal de notre temps. Hein. Même les vieux veulent se faire passer pour des jeunes. Sardes est en train de mourir. Non pas parce qu'elle ne bouge pas, non pas parce qu'elle n'innove pas, elle est en train de mourir parce qu'elle ne garde pas ce qu'elle a reçu et entendu. C'est évidemment du contenu de la foi qu'il est question ici, du message, de la doctrine. Sardes ne paraît pas gagner comme d'autres églises par des théories fumeuses et puis des gourous. Il n'est pas question, comme ailleurs, de prophétesse Jézabel, de Balaam, de Nicolaïte. Ce n'est pas la séduction de messages trompeurs. C'est simplement, si on peut dire, le désintérêt, le manque de motivation et d'attachement à la doctrine chrétienne. Et c'est ça qui tue. Alors franchement, je ne pense pas que notre Église soit aujourd'hui, plus que d'autres Églises, menacée par ce danger. Pas plus que d'autres. Peut-être même un petit peu moins. Mais c'est un danger qui menace aujourd'hui toutes les Églises. C'est le mal du siècle. Qu'est-ce qui compte aujourd'hui dans la vie d'une église ? C'est l'atmosphère, c'est la louange, c'est le fun. La doctrine. Et c'est ça qui tue. On croit qu'on va bien parce qu'on a le fun. Et on est en train de mourir. Écoutons bien l'appel qui est adressé à l'église de Sardes. Soyons vigilants. Revenons toujours à l'essentiel. Gardons ce que nous avons reçu et entendu. Encore deux petites remarques. Jésus insiste sur l'appel à la vigilance, il y revient et il le relie cette fois-ci à sa venue. Si tu ne veilles pas, il a dit veille, et maintenant il dit si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur. C'est quand même très choquant que Jésus présente sa venue comme, comme celle d'un voleur. Sa venue, c'est quand même la venue que l'Église attend. Viens, Seigneur Jésus. Et même toute la création soupire en attendant la venue du Seigneur. Jésus la présente comme la surprise désagréable. Ce n'est pas la première fois, parce que déjà dans les évangiles, Jésus a employé cette image. Pourquoi présenter ce qui pour nous n'est pas une surprise, puisque nous savons que Jésus va venir, et ce qui pour nous est la chose la plus agréable, la meilleure que nous puissions attendre, pourquoi le présenter comme la surprise désagréable ? Et précisément parce que celui qui ne veille pas, il oublie que Jésus va venir, d'où la surprise. Et puis, celui qui ne veille pas se trouve bien d'autres sujets d'intérêt, d'attente. Et la venue de Jésus va plutôt contrarier ses attentes. Surprise désagréable. Soyons vigilants. Attendons avec espérance, avec joie, la venue de notre Seigneur. Dernier détail, la lettre parle de gens qui, à Sardes, n'ont pas sali leurs vêtements. Ce sont probablement les mêmes que ceux qui sont encore un peu en vie. Jésus leur promet qu'ils marcheront avec lui en vêtements blancs. Nous avons évoqué la doctrine, mais là il s'agit de la conduite. Il s'agit de morale. Prenons garde de ne pas nous salir. Le blanc immaculé, il est hors de notre portée maintenant. Il est promis, ils marcheront avec moi en vêtements blancs. Mais en attendant, évitons les grosses taches et peut-être aussi certaines petites taches qui se voient moins, mais qui sont bien tenaces. Ne nous laissons pas décourager, c'est pas gagner par le découragement, le fatalisme. Un jour, nous marcherons avec Jésus en vêtements blancs. Amen.